Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 3 juin 2023, samedi 3 juin. La semaine est terminée, c'est donc open bar aux États-Unis. Tout est réglé, tout est formidable. Ils sont géniaux. Ils ont décidé de s'endetter encore, encore, encore et encore pour les années à venir, de ne pas chercher vraiment de solution. Et le marché trouve ça absolument fantastique. Grosso modo, je crois que le marché se fout totalement de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas eu de défaut. Bref, on termine donc la semaine en fanfare. On ne se pose plus aucune question. Pourtant, il y a des chiffres qui laissent supposer qu'il y a encore d'autres problèmes qui nous attendent. Oui, parce que contrairement à ce que l'on peut l'imaginer, eh bien, à partir de lundi matin, on va parler de taux, on va parler d'inflation, on va parler d'action de la Fed, et puis surtout, on va voir comment est-ce que notre cher gouvernement américain, notre cher parfait gouvernement américain, va faire pour emprunter les 1000 milliards dont ils ont besoin tout de suite maintenant pour continuer à fonctionner normalement. Mais ceci est une autre histoire, un autre monde et une autre semaine. Parlons d'abord de ce qui s'est passé durant celle qui vient de se terminer. Donc, à moins que vous ayez passé la plupart de votre temps ces 6 dernières semaines sur une île déserte qui n'avait pas de wifi, pas de connexion avec internet, eh bien, on a parlé du plafond de la dette, bien entendu. Le suspense, jusqu'au bout du suspense, on a réussi à packager ce truc à la fin, à la dernière minute, un peu même en avance finalement, puisqu'on est que le 3 juin ce matin et que ça a déjà été réglé hier. On avait jusqu'au 5 juin pour faire défaut sur la dette américaine. C'est réglé. Maintenant, tout est repoussé. On a botté en touche jusqu'en 2025. Donc, le nouveau président qui prendra ses fonctions à cette époque-là n'aura plus qu'à se débrouiller avec ce qu'il va retrouver comme catastrophe. On parle déjà de 4000 milliards d'endettement supplémentaire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les républicains ne voulaient pas augmenter trop le plafond de la dette. Ils ont carrément supprimé le plafond momentanément. Et puis, ils ont soi-disant fait 2-3 économies à droite à gauche. Mais on se demande bien comment ils vont y arriver, sachant que là, ils ont besoin de 1000 milliards pour fonctionner là tout de suite. Et puis, ils vont essayer d'économiser potentiellement 1000 milliards sur les 2 prochaines années. Bref, on n'a pas fini de rigoler parce que le problème n'est pas réglé. Le problème est simplement repoussé. Mais ça suffit largement au marché pour continuer son bonhomme de chemin. Par contre, ce qui n'est pas réglé, c'est les taux d'intérêt. Donc, le 13 et le 14 juin, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je vous le disais avant, eh bien, la Fed va se réunir. Et si l'on observe les chiffres économiques qui sortent en ce moment, eh bien, on peut quand même se poser des questions et commencer à s'interroger sur la suite des événements concernant les taux. Oui, parce qu'en fait, si on regarde déjà le PCE qui est sorti vendredi dernier, donc il y a une dizaine de jours, eh bien, on se disait, ouais, eh bien, l'inflation baisse à certains endroits, mais elle monte ailleurs, ce qui fait qu'elle reste quand même vachement collée autour des 5% d'inflation et qu'on est encore loin des 2% attendus par la Fed. Donc, potentiellement, il pourrait éventuellement monter les taux. Et puis alors, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés cette semaine, tous les chiffres qui sont liés autour de l'emploi, du travail, eh bien, on voit que l'emploi est relativement fort encore. Et donc, par rapport à ça, on pouvait aussi se dire, c'est pas super rassurant. D'ailleurs, vendredi, hier, en fin de semaine, on a donc eu les chiffres des non-farm payrolls, que l'on attendait à 180 000 créations d'emplois. Alors, que l'on se rassure, comme d'habitude, les experts en prévision financière se sont littéralement vautrés parce que nous sommes sortis à 338 000 créations d'emplois et que 338 000 créations d'emplois, eh bien, c'était censé être angoissant puisqu'on disait que tout ce qui était autour de 200 000 créations d'emplois serait forcément dirigé en direction d'une hausse des taux. Mais hier, il y avait le double effet qui se coule. Et le double effet qui se coule, c'est d'abord l'accord sur le plafond de la dette qui est signé, qui soulageait tout le monde. Et puis, la deuxième chose, c'est que à l'intérieur des chiffres des non-farm payrolls, on s'est aperçu que le chômage est passé de 3,4% à 3,7%. Donc, c'était pas du tout attendu. Donc, c'est un signe de ralentissement. Alors, on crée 338 000 jobs, mais à côté, vous avez le chômage qui remonte de 0,3%. Donc, ça calme le jeu, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et tout le monde était serein et rassuré par rapport à ça. Comme quoi, il ne nous faut pas grand-chose pour se retrouver serein et rassuré. Quoi qu'il en soit, le marché finissant en boulet de canon. Mais néanmoins, si on regarde l'enveloppe globale, c'est encore une preuve supplémentaire comme quoi potentiellement la Fed pourrait se résigner à monter encore une fois les taux le 14 juin. Mais ça, on en discutera forcément la semaine prochaine à tête reposée. Là, il fallait fêter le plafond de la dette et c'était quand même ça la priorité. Autrement, je vous passe Le sujet de la semaine qui continue toujours à être un peu l'intelligence artificielle, après les explosions de Nvidia et tutti quanti, on ne parle plus que de ça. Si vous cherchez un peu, vous verrez des dizaines et des dizaines de comparaisons par rapport à ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est-à-dire un désintérêt total sur tout ce qui est défensif et un intérêt massif pour tout ce qui est technologique, parce que la technologie, c'est la vie, la technologie, c'est le Saint Graal, tout va bien et à chaque fois qu'on achète la tech, ça peut que bien se finir. Néanmoins, on est à des niveaux de séparation entre ces valeurs défensives, par exemple le Dow Jones et le Nasdaq aujourd'hui, qui sont juste impressionnantes. On n'a plus vu ces écarts de performance aussi importants depuis l'an 2000. Et pour ceux qui n'étaient pas là, l'an 2000, c'était pas forcément les vacances. Enfin, c'était les vacances au début de l'année, mais on l'a payé quand même sacrément cher le reste de l'année. Donc attention quand même sur cet engouement général sur la tech, en se disant ça va être génial dans les 10 prochaines années. Il faut quand même pas oublier que notre vision aujourd'hui, la vision de l'investisseur moyen aujourd'hui, elle est quand même plutôt à 3 mois qu'à 30 ans. Donc il faut quand même faire un peu attention. Oui, il y a des avancées technologiques. Oui, il y a des choses qui vont se développer. Oui, sur les 10 prochaines années, il y aura certainement des rendements intéressants sur certains secteurs. Mais la semaine prochaine, c'est pas évident que ça soit aussi violent comme impact. Bref, on en discutera, mais ça reste un sujet qui reste un peu touchy, parce qu'on voit clairement qu'on a un emballement général sur ce secteur, et comme tout emballement, eh bien, il y a un moment donné, il faut savoir raison garder et être prudent, et c'est ce que l'on peut retrouver et ressentir aujourd'hui dans les marchés financiers, c'est en tout cas ce que je ressens, mais c'est vrai que ma prudence et ma peur, peut-être aujourd'hui, me desservent, parce que j'ai l'impression que le marché est en train de partir de toute manière, et quoi qu'il en soit, on s'en fout, il faut acheter parce que c'est le bull market. Si je regarde les performances de cette semaine, nous avons donc le Nasdaq qui est en tête, bien sûr, le suivi du Dow Jones. Alors le Dow Jones s'est bien récupéré en fin de semaine à cause de l'effet plafond de la dette. Le Japon qui va toujours très bien, qui est un des marchés les plus spectaculaires. À ce propos, n'oubliez pas que le 15 juin, lors du Cisco Trading Day, nous aurons une présentation dédiée au Japon. Alors n'oubliez pas de vous inscrire. Le S&P 500 termine en hausse de 1,83%. Bref, les États-Unis sont au paroxysme du bonheur. Les Européens ont quand même récupéré pas mal de ce qu'ils avaient perdu. Alors, le CAC 40 finit quand même en baisse à cause de la thématique du luxe. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, le DAX termine quand même légèrement en hausse. C'était pas gagné au début de la semaine. Et puis, alors, la Suisse, hein, performance hebdomadaire impressionnante. 0,08%. On sent toute l'excitation qui se regroupe sur le SMI. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, juste pour le SMI, c'est qu'effectivement, dans ces périodes où les gens s'intéressent beaucoup à la tech, c'est toujours un peu plus difficile de venir se repositionner sur le SMI, sachant la tech qu'on a dans le SMI, forcément. Si on prend la perf des titres individuels, toujours dans le SMI, on a Lonza qui finit en tête. Lonza qui a fait l'acquisition d'une boîte biotechnologique qui vient du nord de l'Europe pour quelque chose comme 100 millions. Autrement, on a Partners Group en Suisse, Swissre, on voit que les gens se repositionnent sur des trucs qui payent un peu du dividende. Et puis autrement, le reste, eh bien, on a Nestlé qui termine en bas de la liste, Logitech, toujours un peu à la traîne, en baisse de 3,78%. Nestlé, on va y revenir dans deux minutes, mais c'était clairement un des grosses annonces en Suisse de la semaine, parce que voir des mouvements pareils sur Nestlé, c'est quand même pas tous les jours. Et nous sommes repartis pour le point technique sur les quelques indices. Alors, vous voyez clairement que en Suisse, il ne faut pas chercher bien loin. Pour l'instant, c'est les 11 400 qui nous obsèdent. Hein. On tourne autour. Cette semaine, on a quand même assez mal entamé la semaine pour aller se chercher relativement des points bas durant la semaine. Mais finalement, on revient pour quand même aller se positionner pile poil sur la zone des 11 400. Quand on regarde où en sont les stochastiques en bas, on a un peu d'espoir d'envisager une suite plutôt positive sur le SMI. On va parier plutôt sur une direction à la hausse, pour autant qu'on n'aborde pas trop le sujet d'une nouvelle hausse des taux aux États-Unis. Mais en tous les cas, on voit que pour l'instant, on a de la peine à se séparer de cette zone technique des 11 400 qui se situe par là. Vous voyez que les mouvements sont quand même relativement étroits. Le CAC 40, c'est pareil, mais lui, c'est pas les 11 400. Lui, c'est plutôt les 7 400. Alors, les 7 400 qui étaient cette ancienne résistance historique qu'on a eu toutes les peines du monde à casser ici, qui a finalement cédé à ce moment-là. Et aujourd'hui, eh bien, on tourne autour. Alors, on a vécu une mauvaise semaine sur la France. La raison principale, eh bien, c'est la baisse de titres comme Hermès ou comme LVMH. Vous voyez ici Hermès qui s'est quand même bien récupéré en fin de semaine. Vous voyez également LVMH qui s'est bien récupéré également en fin de semaine. Mais vous voyez que cet impact sur LVMH durant toute la semaine, ça c'est cette espèce de crise chinoise qui nous obsède pour l'instant, eh bien a pesé sur l'ensemble des valeurs du luxe. Et ça se ressent clairement sur l'indice principal qui a bien souffert cette semaine, mais qui termine en boulet de canon. Merci à la dette américaine. Au passage, il y a toujours des commentaires négatifs sur la dette française, mais visiblement, sur le CAC, on est plus intéressé par la dette américaine que la dette française qui n'est pas au top. Il faut dire qu'avec le maître que nous avons aux finances en France, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le DAX, lui, alors se bat avec cette tendance, vous voyez, cette grande tendance haussière qu'on a depuis un bon moment maintenant. L'autre jour, on a été chercher les plus hauts historiques sur le DAX en cassant brièvement cette résistance, mais en revenant immédiatement sur la tendance de fond. On l'a tenue, grand bien nous fasse, on est en train de repartir à la hausse. Là aussi, vous voyez les stochastiques relativement faibles. On peut espérer qu'on revienne à la hausse, qu'on casse la résistance des 16 300 et puis qu'ensuite, on puisse repartir sereinement sur le DAX, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Le S&P 500, alors on se posait la question depuis un bon moment, serons-nous capables de casser la résistance des 4200? Serons-nous capables de rentrer en bull market? Eh bien, c'est fait, il n'y a plus de questions à se poser, nous sommes en bull market, tout va bien, c'est formidable, il n'y a aucun problème sur l'emploi, aucun problème sur l'économie, aucun problème sur la dette. Ils sont géniaux, les Américains ont tout fait juste encore une fois et on voit cet envol assez spectaculaire finalement, cette hésitation sur les 4002 ici, mais qui finalement nous ont poussé à la hausse. On est à 4000, pratiquement 4300 sur le S&P 500, nous sommes en bull market puisque je le rappelle, depuis les plus bas ici jusque là, eh bien ça fait 20%, et 20% depuis les plus bas, ça veut dire qu'on est en mode bull market. Alors pourvu que ça dure, parce que pour l'instant on voit juste pas de raison pour aller dans l'autre sens, puisqu'on a cette capacité absolument fascinante de vouloir voir uniquement les choses du côté optimiste et du côté positif, donc ça devrait pouvoir continuer. Le Nasdaq, ça se passe de commentaires, hein. Je ne veux pas revenir sur les considérations des vieux qui ont vécu la bulle d'Internet de l'an 2000, mais ce genre de configurations haussières qui sont quasiment verticales, font toujours un peu peur. Il ne faut pas oublier qu'on est parti de 13 160 et qu'on est à 14 600, et ça c'était en l'espace de 10 jours pour en arriver là, ça fait beaucoup. Et généralement on dit toujours que les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Effectivement, il y a toujours un moment où on doit avoir des pauses, et si vous regardez un petit peu dans l'historique, on voit des accélérations toujours très rapides. Et vous voyez que les accélérations très rapides, elles font toujours des sommets très pointus et des descentes très rapides derrière. Donc il va falloir quand même faire un tout petit peu attention. Même si vous allez tous me dire, bien sûr, que cette fois c'est différent, on sait que d'habitude, quand on dit cette fois c'est différent, c'est toujours plus dangereux. Alors si on parle d'ascension verticale, il fallait vous montrer le SOX. Alors là, on a quand même l'impression que ça bug un peu à l'altitude tout en haut. On est en train de retester les résistances qui nous a fait renvoyer à la cave à l'époque en mars 2022. On est exactement au même niveau. Donc ça, il va falloir surveiller quand même. C'est des points qui sont relativement importants. Il va falloir qu'on puisse aller s'établir en dessus des 3650 de manière durable pour aller chercher, bien sûr, les plus hauts historiques sur le SOX qui pourraient nous indiquer que finalement on va plus jamais s'arrêter de monter. Mais là encore, on va devoir faire face à d'autres problématiques puisque maintenant le problématique de la dette est terminée. On va peut-être se concentrer sur les taux pendant quelques jours, ce qui pourrait nous poser encore quelques doutes ou quelques interrogations ces prochaines semaines. Si on revient sur ce qui se passe en Suisse en ce moment, eh bien on notera que cette semaine nous avons eu les publications du PIB qui est en hausse de 0,6% sur 6 mois et de 0,3% sur 3 mois. Comme vous le voyez, c'est super excitant, on sent vraiment qu'on est à full power. Ça reste quand même relativement tranquille. Le COF en Suisse a d'ailleurs annoncé que les perspectives étaient relativement moroses. Alors on verra ce que ça veut dire morose, on sait ce que ça veut dire les prévisions économiques, hein. On voit quand même que systématiquement systématiquement, mis à part se gourer, on fait pas grand chose d'autre, mais néanmoins on sent que ça reste constructif, mais pas non plus euphorique. Il est clair que vu la situation, il faut pas oublier non plus que l'inflation réelle est quand même très présente, mais vu la situation, eh bien on pourrait quand même s'inquiéter d'un éventuel ralentissement, mais l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal. Mais il faut pas non plus s'attendre à une espèce d'énorme euphorie, c'est vrai qu'on le vit au niveau des marchés, mais quand même un tout petit peu moins au niveau de ce qu'on appelle Main Street. Dans les grosses histoires de la semaine, eh bien Nestlé, je vous le disais tout à l'heure sur les performances hebdo, Nestlé termine relativement mal, Nestlé a mal vécu sa semaine. La raison principale, c'est le départ de son CFO, le Chief Financial Officer de Nestlé est donc parti, il va rejoindre la nouvelle structure de Sandoz, le board de Sandoz. Donc là, le géant Veuvezan se retrouve sans CFO, alors ils ont déjà retrouvé une nouvelle CFO, puisque c'est la CFO de la Bourse de Londres qui va remplacer Monsieur Roger à la tête des finances de Nestlé, mais néanmoins l'annonce n'a pas vraiment plu et on se retrouve avec un titre qui était pas mal sous pression cette semaine, même si fondamentalement ce ne sont que des Chief Financial Officers qui se remplacent quand même de manière assez simple, la preuve puisque c'est déjà fait, donc il faudra surveiller et puis revenir peut-être gentiment à un moment donné sur Nestlé, parce que c'est pas non plus ça qui va changer l'avenir du monstre du chocolat. Alors, ce qui est rassurant dans Nestlé aujourd'hui, malgré la nouvelle, c'est que vous le voyez, on a cette fameuse tendance haussière qui passe par ici et qui passe par là. Et donc, on est revenu juste en bas de la tendance haussière. Donc, pour ceux qui font de l'investissement, je ne parle pas forcément du trading, mais pour ceux qui font de l'investissement et qui attendaient un moment pour se repositionner sur Nestlé, eh bien, le moment est arrivé. Hein, la zone des 108-109 francs suisses est plutôt intéressante pour se repositionner et pour, comme d'habitude, jouer le range en espérant l'avoir remonté progressivement en direction des 117-118 francs suisses. Donc, je pense que là, ceux qui jouent le trend, la tendance, le suivi de tendance, eh bien, ils ont une belle opportunité de pouvoir faire quelque chose sur Nestlé. Parlons maintenant un peu luxe et commerce extérieur. On a eu les chiffres des exportations. Alors, les exportations de marchandises en Suisse ont baissé de 6,8% par rapport au mois précédent. Les importations se sont contractées de 3,6%. Par contre, les exportations horlogères ont constaté certains rebonds en direction de la Chine. Alors, la Chine, c'est la grande thématique de ces derniers temps. Vous l'avez vu, lu et entendu. On en a parlé sur le CAC il y a 3 minutes. Grosso modo, eh bien, les Chinois, on s'attendait à un rebond massif après la libération post-Covid. Ça ne vient pas, ça reste très mou. On a eu beaucoup de chiffres économiques en Chine qui montrent qu'il y a un ralentissement qui est en train de se construire, que le chômage est en train de monter, surtout le chômage des jeunes, que les PMI vont pas bien et que la croissance économique est au ralenti. Et pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, la Banque centrale chinoise ne veut rien faire pour soutenir l'économie chinoise. Alors ça peut venir du jour au lendemain, on les connaît, ils n'ont pas d'obligation d'attendre des dates précises pour intervenir, donc ça peut arriver d'un jour à l'autre, mais pour l'instant, on sent quand même que la thématique du luxe est en train de ralentir. Et puis, si on va un petit peu plus loin, aux États-Unis, eh bien, on a aussi eu des chiffres comme quoi les ventes de détail ralentissaient, comme quoi bah, le chômage est en train d'augmenter, donc on peut quand même s'attendre à un moment donné que la consommation de ces deux moteurs de la consommation mondiale se ralentirait en même temps. Donc, si en même temps, vous avez les deux qui commencent à ralentir, forcément, au niveau du luxe, même si les gens qui ont beaucoup d'argent vont pas arrêter de dépenser, ils vont pas non plus acheter 14 sacs à main et 12 montres toutes les semaines juste parce qu'ils ont de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a quand même un risque potentiel de voir un léger essoufflement dans tout ce secteur qui a cartonné ces dernières semaines. Je rappelle qu'en termes de carton, ils ont fait pratiquement aussi bien que l'intelligence artificielle. Tant c'est pas tout à fait le même métier. Donc, il faudra surveiller un petit peu tout ça, mais on l'a vu cette semaine. Et bien, évidemment, comme vous avez des LVMH et des Hermès qui subissent le courroux de cette situation-là, et bien vous avez également des boîtes comme Richemont ou comme Swatch qui se sont fait allumer durant la semaine. Alors ça commence par Richemont. Alors Richemont est revenu là aussi en bas du canal haussier, hein, donc ceux qui y croient à fond, et bien c'est là aussi des niveaux assez intéressants pour se positionner. Ce qui est assez marrant à voir, c'est que pour l'instant, quand on regarde les commentaires, tout le monde est super bullish, hein, les analystes ont confirmé leurs objectifs, ils sont tous plus ou moins rassurants. Mais on a vu quand même qu'on a souffert de cette thématique du luxe sur Richemont. Alors, elle est dans le bas du canal, ça vaut peut-être la peine d'essayer de rejouer quelque chose si tout d'un coup on a des décisions surprises sur la Chine. Si on regarde Swatch, alors là c'est beaucoup moins drôle, hein. Bon, beaucoup moins de diversification dans le groupe des montres, bien sûr. Donc là on est revenu, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours. Alors ça c'est pas bon du tout sur le moyen long terme, mais on a vu que dans les chiffres des exportations, même s'il y avait un rebond, eh bien ça a quand même été très mal interprété. Et on voit là que depuis un moment, toute la thématique est sous pression depuis un bon moment. J'ai envie de dire même bien avant que ça commence à baisser sur des boîtes comme LVMH ou comme Hermès. Donc la tendance là est bien établie et l'accélération de cette semaine n'est pas forcément rassurante. Pour l'instant, on aurait tendance à dire qu'il faut never catch a falling knife. On a un extrême point dans la zone 257. Ce serait bien qu'on arrive à se stabiliser, mais pour l'instant, il ne faut pas se précipiter pour rentrer sur Swatch. On sent bien qu'en tout cas, au niveau des commentaires des analystes, c'est quand même beaucoup plus populaire chez Richemont que chez Swatch. Une semaine sans le Crédit Suisse et l'UBS ne serait pas une semaine normale. Donc, on parle évidemment des deux grandes banques ou de la méga grande banque suisse. Cette semaine, il y a eu deux, trois choses. Alors, tout d'abord, il y a les Américains qui sont en train de ruer dans les brancards parce qu'effectivement, l'action du Crédit Suisse est en dessous de 1$ au New York Stock Exchange. Et comme la loi aux États-Unis dit qu'une action qui est en dessous de 1$ pendant plus de 30 jours doit être délistée, eh bien, le New York Stock Exchange demande à la banque, au Crédit Suisse, de faire quelque chose pour changer. Alors, on ne voit pas ce qu'elle pourrait faire de plus. Ce serait quand même bizarre que l'UBS vienne manipuler le titre du Crédit Suisse pour la faire remonter au-dessus des 1$, on a presque l'impression de se dire de toute façon, ils vont délister le Crédit Suisse à la fin de l'année, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont qu'à la laisser en dessous de 1$, il a laissé délister aux États-Unis, ça n'a pas changé la face du monde de toute manière. Dans la foulée, on a entendu dire qu'il y avait entre 150 et 200 employés du Crédit Suisse qui quittaient régulièrement la banque. Il manque de visibilité sur l'emploi, donc beaucoup de gens s'en vont. Il y a donc énormément de gens qui quittent le Crédit Suisse en ce moment. Et puis dans la foulée, on a Monsieur Hermetti qui est venu nous dire que ça allait être douloureux, et que franchement, avec la tête qu'il faisait, on a l'impression qu'il allait souffrir lui-même parce qu'il allait devoir virer des gens. Mais qui se rassure de son côté, ça va bien se passer, il touchera quand même des gros bonus comme d'habitude et son salaire est garanti, donc c'est pas un problème de ce côté-là, mais néanmoins, on parle toujours beaucoup emploi, licenciement, et on voit que ça ne... y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait un petit truc à gratter ou à parler sur l'UBS et le Crédit Suisse, donc ça continue, donc délisting ou pas délisting, franchement, est-ce que c'est vraiment important pour le moment? On notera aussi que le Conseil fédéral est favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire qui va étudier ce qui s'est passé avant la fusion UBS Crédit Suisse, mais ce sera purement consultatif. En gros, ça va coûter une blinde, péter de fric de nouveau pour payer des mecs à rien foutre, et puis à la fin, pour se dire, oui, c'était pas bien, ça qui était pas bien, mais bon, comme c'est purement consultatif, on peut classer le dossier et passer à autre chose. Mais le Conseil fédéral a donc ouvert la porte à une enquête parlementaire. Et ça, c'est vraiment, on voit, la preuve totale de la transparence de la politique suisse. Et donc, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Mais c'est une nouvelle en tous les cas. Et puis, on terminera avec Novartis. Alors, Novartis qui a annoncé des bons résultats cliniques avec son médicament, le Kisqali, qui permet d'éviter les résurgences et les redémarrages des cancers du sein pour ceux qui ont été diagnostiqués suffisamment tôt. Donc, c'était une bonne nouvelle au niveau des tests cliniques. Et donc, Novartis a bénéficié un petit peu de cette information en fin de semaine. Et si l'on regarde brièvement le graphique de Novartis, alors vous voyez que notre range habituel qu'on connaît depuis des années, eh bien, est en train de se transformer, en train de changer de niveau. Donc on est en train de taper une nouvelle résistance, support, à 86,50. Et c'est là qu'on a rebondi sur la news du Kisqali. Donc pour l'instant, nouveau range sur Novartis, 86,50-94. On a l'impression qu'on est reparti dans quelque chose de nouveau. À suivre attentivement, tant qu'on reste là-dedans, eh bien, comme on l'avait fait sur l'ancien ici, eh bien, on va pouvoir se repositionner pour continuer un peu à la hausse. Attention néanmoins, parce que quand Novartis ralentit, on a tendance à revenir rapidement très très bas. Mais néanmoins, tant qu'on reste en dessous des 86,50 sur Novartis, il y a un truc à jouer dans le range. Voilà ce que l'on pouvait dire en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter pour l'instant. Il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis à sortir de chez vous pour aller profiter du week-end et laisser 5 minutes cette chaîne YouTube tranquille. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager si ça vous a plu. Et puis on se revoit voit comme d'habitude lundi matin, puisqu'on recommence des vraies semaines de 5 jours. C'est fini la saison des ponts. On va donc se retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien et à lundi. Bye bye.